Frères et sœurs, chers amis, je vous salue et je vous dis aussi ma grande joie de pouvoir partager avec vous ce culte où vos responsables, si je puis dire, à commencer par Jean-Paul et aussi ma collègue et mon ami Dominique Hernandez, ont souhaité que je puisse aujourd'hui partager avec vous ces quelques réflexions sur des textes bibliques, une manière de rappeler que nous sommes fondés pour notre vie et pour ce que nous sommes en cette parole. Mais je vais peut-être vous déconcerter ce matin. En réalité, je ne viens pas d'emblée vous parler de la paix. Je vais vous parler de la peur. Ce n'est pas ce qu'on apprend aux étudiants quand ils font leurs exercices de prédication. On dit qu'il faut, dans un premier temps, aborder les choses positivement et terminer aussi avec la note positive. Là, moi, je veux commencer avec quelque chose qui est en nous et voir ce que nous pouvons en faire devant Dieu. Un premier texte, un texte archi connu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, puis du verset 21 jusqu'au verset 22. Exode 14, 15 à 16, et plus loin, 21 à 22. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, élève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer sur la terre ferme. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent. Ce vent était de l'est. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Et puis, dans les évangiles, l'évangile de Matthieu au chapitre 14, du verset 22 au verset 27. Matthieu 14, 22 à 27. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau, la barque, et à le précéder de l'autre côté de la rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par des vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux, c'est Jésus, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme, et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage !» Courage, c'est moi. N'ayez pas peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous par ta vérité. Amen. Alors, chers amis, parler de la peur à la place, par exemple, de la paix, voire même de confiance, peut paraître, je le redis, assez contradictoire, parce que nous ne sommes pas appelés à témoigner de cela, de tout ce qui est sombre, de tout ce qui nous fait trembler, de tout ce qui nous laisse sans moyens. Nous sommes appelés à vivre debout et à pouvoir, malgré tout, dans toutes les circonstances, vivre comme des témoins du Dieu qui vient. Mais nous ne sommes que des hommes et des femmes avec nos fragilités personnelles. Nous ne sommes que des hommes et des femmes vivant des sociétés et le monde balafrés par tant de problèmes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'en ce moment, nous sommes bien servis. C'est peut-être aussi cela qui a fait que je pense spontanément à ce texte pour qu'en insistant sur la peur, je vous aide aussi à voir comment il est possible d'entrer dans quelque chose qui est comme le dépassement de la peur par l'accueil de l'impossible, mais qui est en réalité le possible de Dieu. Le texte qui nous parle de cette chose qui arrive sur la mer, la rencontre de Jésus avec ses disciples dans une situation complètement surréaliste, une situation apocalyptique presque. Ce texte, je le veux dans un premier temps comme le portail de ce que j'ai envie de vous dire sur le texte d'Exode. Mais ce texte est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous regardez la partie qui précède le récit que je viens de lire, vous verrez que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui était en captivité, qui était incarcéré par Hérode, venait d'être décapité. Jean-Baptiste est donc mort et Jésus est comme dans la continuité, une succession obligée de ce que pouvait ou ce que faisait Jean-Baptiste. Et le premier signe qu'il pose après cet événement affreux, porteur de tout ce qui est découragement, porteur de tout ce qui est désorientation, le premier signe qu'il pose est celui d'offrir du pain aux multitudes. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, que vous avez oublié, le premier à avoir fait ce geste de donner du pain aux autres, ce n'est pas Jésus, c'est Élisée. Et qui est Élisée qui a donné du pain à plus de 100 personnes? Sinon, le successeur, presque présenté dans la Bible comme l'avatar d'Élie, et qui dit Élie, dit aussi un autre nom de Jean-Baptiste, parce qu'il était présenté comme successeur. Et d'ailleurs, entre Élie et Élisée, Jésus et Jean-Baptiste, il y a un emboîtement de dédoublement d'identité, identité symbolique bien sûr, mais aussi une manière d'imaginer les événements qui doivent venir et les événements qui se déroulent à la lumière de cette vision de Dieu comme souverain de l'histoire et qui fait que ceux qui sont témoins de son règne, ceux qui sont témoins de la proximité de sa fidélité, reste aussi témoin de ce que Dieu change malgré les situations difficiles et tout ce qui est comme ombre sur la marche de l'histoire. Donc Élie et Élisée, Élisée, le geste du pain donné, Jean-Baptiste et Jésus, et après la disparition de Jean-Baptiste, de manière tragique, Jésus qui pose un geste énorme en offrant du pain à des multitudes. C'est le soir. Cet acte de distribution de pain multiplié, cet événement du pain à provision a eu lieu. Et ces multitudes qui vivent comme en déshérence, abandonnées à eux-mêmes, sont là. Bien sûr, avec tout ce qu'ils ont reçu et qui attestent qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes, bien sûr, avec ce signe du pain donné qui est encore là, présent dans les mémoires et les vies de ces personnes, mais aussi, et peut-être même d'abord, la brûlure d'une parole, d'un enseignement qui ouvre la perspective de l'histoire et des trajectoires d'histoire personnelle, et donc l'attachement à Jésus qui leur parle de cette manière. Une autre manière de distribuer un pain, et cette fois-ci le pain de la parole. Jésus doit quitter cela pour se retirer et prier seul. La première solitude, la première rencontre de solitude est celle de Jésus sur un lieu à l'écart où il parle et écoute son Père. Vient la deuxième solitude. C'est celle qui est proposée par Jésus à ses disciples, à ses amis, de traverser seul le lac, présenté ici comme mer, avec plutôt l'échelle géographique et les dimensions que nous connaissons pour cette région du monde, seul sur ce lac.